Bien se lancer. Donc, merci à tous ceux qui sont là d'être venus. C'est très gentil.
Merci.
Donc, je préviens tout de suite les quelques téméraires qui ont pris place dans la salle. C'est la première fois que je modère quelque chose. En l'occurrence, une rencontre. Alors, je me lance parce que j'ai un certain nombre de questions, et alors des vraies questions, des fausses questions. Parce que je me suis lancé un peu le défi de placer des questions sans grand intérêt. Alors, je commence tout de suite par une question, une fausse question. Vous êtes ici donc pour rencontrer Gilles Francescano. Alors, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi Francescano comme pseudonyme?
Ah, bonjour, merci d'être venu. Je vous remercie de cette question très intéressante. Bon, on va arrêter de les faire rire parce que là, ça ne va pas être possible.
Voilà. Donc, c'était une fausse question, car pour ceux qui ont suivi, c'est son vrai nom.
Non, mais ceci dit, il y a quand même une histoire sur ce nom.
Alors,
je vais peut-être
te
la raconter, tu auras gagné 5 minutes.
Mais raconte-la aussi au public.
Oui, pour la petite anecdote, effectivement, si vous faites une recherche sur le nom, il y a très peu de noms propres Francescano, en fait. Et jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, on était quasiment 6 sur le monde connu, quoi, en fait, à se nommer Francescano. Pour la petite anecdote suivante, en fait, c'est que ce nom est un nom italien qui vient donc du sud de l'Italie et qui a été donné donc à mon grand-père par les pères franciscains, en fait, qui l'ont recueilli devant une chapelle franciscaine, donc dans un village du sud qui s'appelle Salerme. Et donc voilà, un enfant abandonné. Alors les parents étaient peut-être, des rois belges ou je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, mon grand-père donc a été nommé Francescano par les pères franciscains, donc le nom signifie franciscain, et c'est vrai que ça a été assez, disons, influent sur moi, la petite enfance, parce que c'était une histoire qu'on se racontait souvent, élevé par une grand-mère italienne, qui a porté 30 ans de deuil, enfin toute l'histoire italienne, pied noir italien, je dirais, qui fait ce que je suis aujourd'hui. Mais cette religiosité, disons, du nom a été quand même très très présente. Ouais. Voilà. 5 minutes.
Et alors justement, Gilles Francescano, quel enfant étiez-vous?
Alors je dirais presque... Oui, j'y vais. J'ai failli dire une moitié d'enfant, parce qu'en fait je suis jumeau avec mon frère. Et voilà, et donc j'étais le plus calme des deux, ça se voit, parce que du coup je ne me suis pas développé à l'arrière, parce que je dormais tout le temps. Mais à l'époque j'avais quand même un peu plus de cheveux, quoi. Voilà, non, assez calme, je trouve, je pense, dans l'ensemble. Une grosse quête d'identité qui m'a vraiment marqué en étant môme, en fait, hein, puisque c'est vrai que, bon, sans m'allonger sur le canapé pour autant, on était des jumeaux pas attendus. Donc, on arrive dans une famille qui n'a pas forcément prévu tout le ramdam que ça allait causer. Et élevé à Nice, donc la ville originaire, dont je suis originaire. Donc voilà, j'étais un peu le plus calme des deux, quoi, en fait. Voilà.
Est-ce que justement le fait d'être un jumeau, est-ce que ça a une vraie importance?
Alors, n'étant pas vraiment de l'autre côté pour savoir s'il y a une réelle différence, c'est quand même un sujet, moi, qui m'a effectivement, enfin, qui me poursuit quand même toujours, quoi, forcément, qui me préoccupe, entre guillemets, toujours, pas forcément toujours sur l'aspect négatif des choses, juste une occupation de l'esprit. Sur la quête d'identité, ça, je l'ai vraiment senti, quoi. Après, bon, forcément, la gémilité induit un miroir continuel qui va aider les deux individus soit à s'élever en miroir, soit à s'élever en contradiction. Donc ça crée des trucs assez intéressants. Et Et du coup, moi, je dirais, dans certaines de mes images, en fait, pourquoi je suis attiré par certaines ambiances, pourquoi il y a des jeux comme ça de masques qui apparaissent dans les images. Pas Commedia dell'arte, parce que je suis pas trop... les racines italiennes sont présentes, mais je cultive pas vraiment, à part la sauce tomate et les pâtes, je cultive pas vraiment le reste. Mais voilà, sinon, oui, je pense que cette présence de la gémilité dans le reflet, je sais que l'attirance du reflet, l'eau, parce que je suis originaire d'une ville d'eau, donc voilà. Quoi.
Et est-ce que votre jumeau est également illustrateur ?
Alors lui, non, il avait pris plutôt une branche de vrai artiste, en fait, hein, parce que moi, je faisais du commercial, quoi, c'était pas possible, quoi. Non, lui, il avait fait les Beaux-Arts à Paris, et un cursus plus artistique ensuite, qui n'a pas forcément abouti à plus de travail pour autant, mais voilà, plus artistique, on dira. Moi, disons, ça s'est décidé assez rapidement.
Mais deux artistes, quand même.
Ce qui paraît, ça peut... Ils ont presque en génération spontanée, tu vois. Il n'y avait rien, et puis d'un coup, pouf, pouf, deux artistes.
D'accord.
Voilà. Ils ont dit, c'est pas... Disons qu'il n'y a pas d'antécédents, quoi, voilà. Ouais. Pas connu en tous les cas. Ils ont dû les noyer, ceux-là, les naissances, peut-être, je ne sais pas. Enfin, mais voilà, pas d'antécédents connus, à part peut-être un vieil oncle pervers qui peignait des nus, mais... voilà.
Bon. Puisqu'on peut consommer les œuvres de Gilles Francescano sans modération, est-ce que vous pouvez vous présenter tout seul votre parcours au public, puisqu'on parlait...
T'as 20 minutes là, pour aller...
Je parle du parcours qui a fait de vous l'illustrateur reconnu que vous êtes aujourd'hui.
Alors, par quoi on commence ? Peut-être par le dessin quand même, allez.
Oui.
Bon, allez. Alors moi, pour la petite, j'ai essayé de me souvenir quand même de comment... Tu peux t'installer tranquille. J'ai essayé de me souvenir un petit peu de temps en temps comment tout avait pu commencer quand même. Et moi, mon rapport au dessin vient par la lecture, quoi, en fait. Alors, après, disons, avec la pure mauvaise foi, j'arrivais à expliquer que ça pouvait être le même amour de la lecture qui faisait une carrière d'écrivain ou une carrière d'illustrateur, puisque pour moi, l'illustration est vraiment liée au texte avant tout, et mon dessin est vraiment lié au texte. Quoi. J'ai très très peu dessiné sur des œuvres perso, comme on dit, ou des choses comme ça. Ça m'est bien entendu arrivé, mais ce n'était pas vraiment le but premier. Quoi. Moi, je recherchais vraiment le rapport au texte. Et alors, comment est-ce que tout cela a commencé ? Bon, déjà, des heures passées tout seul ou à deux, mais quand on est deux, mais que c'est exactement le même, on n'a pas forcément l'impression d'être plusieurs, quoi. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
C'est ce que je veux dire. Très clair, oui.
Hein, absolument. Et donc, à ce moment-là, on a quand même des occupations, entre guillemets, d'enfants solitaires, quoi. Donc, dessiner, bon, le...
Pas de détails.
Comment ?
Pas de détails, Gilles.
Bon, j'ai une jeune fille dans la salle, quand même, Eric. Et non, donc ça passait par le dessin, par les lectures. Les lectures, ça a été assez vite, en fait. Enfin, les lectures dont je me souviens, c'était assez vite.
Oui, vous avez le souvenir du premier livre qui a marqué. Oh, je peux vous tutoyer.
Oui, je me souviens d'accord. Voilà, non, le premier
livre. Essayez de maintenir un petit peu le suspense, mais...
Le premier livre...
Oui, est-ce que tu as un souvenir précis de ce premier livre ? Et alors ?
Tu veux que je te la raconte parce que tu vas voir à quoi.
Au moins, tu me donnes au moins le titre.
Non, je te raconte juste l'histoire parce que ça te fait gagner 5 minutes. Non, parce que j'ai échappé à autre chose en fait, comme type de carrière en fait. Et je me souviens tout à fait que c'était vraiment en primaire en fait. Un gamin avait amené deux bouquins qu'il donnait en fait. Et l'autre bouquin était un SAS ou un truc comme ça, mais avec une nana dévêtue en couverture, et le second bouquin, c'était « À l'assaut de l'invisible », illustré par Swinmack. Voilà. Et c'est celui que j'ai pris. Et en fait, la lecture de ce bouquin-là...
Et pourquoi c'est celui-là que tu as pris ? À cause de la couverture ?
Alors, je pense que ça peut être à cause de la couverture. J'étais pas zoophile parce que c'est une tête de chat sur la couverture avec une femme et un nom, un œil au milieu du front. Mais je pense que ça m'avait quand même suffisamment intrigué. Et je pense qu'après la lecture du livre, ça s'est pas vraiment arrangé parce que, par contre, je me souviens vraiment avoir passé du temps à essayer de comprendre ce que Swinmack avait bien pu raconter. Bon, moi, Swinmack, à l'époque, je pensais juste que c'était une marque déposée, que c'était pas du tout un individu en chair et en os. Et donc je me disais, mais cette illustration, enfin, moi, ça, elle me mettait juste la trouille, quoi, parce que l'histoire, il y a une histoire de société vampire qui fait de l'aumône de sang, et donc je l'ai lu, j'avais pas 12 ans, donc ça m'avait un petit peu choqué. Et puis après, j'ai quand même recherché ce type de lecture. Bon, j'étais pas forcément fortuné, donc j'allais piteusement piquer tous les livres que je pouvais dans le libraire du coin. Mais à culpa, j'ai piqué des droits d'auteur à ce moment-là, mais du coup, j'alimentais ma petite bibliothèque personnelle comme ça. Bon, j'ai même lu du Jimmy Gu à l'époque, par exemple.
Est-ce que tu étais le genre d'élève à dessiner sur les marges de ses cahiers plutôt qu'écouter en cours?
Oui, ça m'est arrivé, ça, quand même. Ouais. Surtout quand j'ai vu que ça faisait rigoler les filles. Ouais.
D'accord.
Et des fois, ça continue, t'as vu là.
Oui. Ensuite, tu as su assez rapidement que tu...
Disons, pendant toute une période, que ce soit de, j'irais, de 12 ans...
Il est formidable parce que je n'ai même pas terminé, il embraye. J'aurais pu dire n'importe quoi que tu, je sais pas, aimais la glace au chocolat, par exemple.
Non, ça justement, non. Maintenant que tu m'en parles.
On continue dans les rapports avec l'illustration, évidemment.
Voilà, sur l'adolescence, en fait, ça s'est fait entre le dessin, entre les heures passées à dessiner, les heures passées à lire et à flipper sur des Stephen King, des choses comme ça. Et puis les heures à écouter de la musique. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment la base, disons, le fondement qui a fait l'amour du fantastique, de la SF, l'amour, entre guillemets, à l'époque du hard rock et du metal plus tard, et l'amour du dessin, forcément, puisque les deux supports étaient liés par les couvertures et par les pochettes de disques.
En fait. Alors justement, je rebondis habilement sur la présence de l'exposition, là, de pochettes de disques. Quelles étaient tes références à l'époque?
Bon, vous m'en tirerez pas trop rigueur, mais c'est vrai que c'était... Non, brièvement, oui, c'était du hard aujourd'hui de base, quoi. Hein, ça pouvait être beaucoup Kiss, beaucoup les Sex Pistols à un moment donné. Bon, pas de hard, mais Sex Pistols, Kiss, tout ce qui était en termes de musique, c'était un peu violent à l'époque, d'accord, mais en même temps, effectivement, sur la culture de l'image. Ça a vraiment créé des choses très colorées parce que, bon, après Iron Maiden, par exemple, avec les couvertures, moi je me souviens qu'on avait repeint tous les Peugeot, toutes les mobilettes des copains avec le monstre de Maiden, quoi, puisqu'on était les deux à pouvoir dessiner. Donc, bon, voilà, sur la petite anecdote. Voilà.
Et ensuite, en termes d'études, est-ce que tu as fait des études?
Alors, ça s'est un peu calmé de ce côté-là. J'ai eu un bac à 3 avec. Une option,
pour les dessin. Pour les jeunes générations,
voilà, c'était littérature, littérature et dessin. Et bon, c'est vrai que là, je dessinais énormément. Et en fait, ça s'est assez accéléré après, en fait, parce que j'ai tenté un BTS qui a été cuté au bout d'un an et demi. Mais entre-temps, en fait, pour mes 18 ans, une amie avait eu la super bonne idée de m'offrir un aérographe, en fait. Et voilà, donc 18 ans, aérographe, et là, ça a été le début de la fin, quoi, parce que. Du coup, je suis resté bloqué sur l'aérographe, rencontré des illustrateurs, et voilà.
Quel a été ton premier travail rémunéré d'illustration, de dessin, de peinture, en lien avec l'image?
Alors, la première...
Ça doit marquer, ça.
Oui, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'était la première couverture de livre, puisque c'était vraiment ça, ce que je voulais faire. Mais ce qui avait été rémunéré peu de temps auparavant, ça a duré 2 ans, parce que je me suis déclaré en octobre 89, et donc les 2 années qui ont précédé, c'était des petits travaux épisodiques, pour essentiellement les jeux des cartes, en fait. Puisque si vous regardez les Casus Belli de 86 à 89, tous les troisièmes de couverture des Casus Belli étaient illustrés par Gilles Francescano. Donc voilà.
Ah, c'est important à signaler, hein. Casus Belli a vu passer...
En troisième de couverture, pas en couverture. Mais bon, voilà, c'était un travail régulier qui m'a fait ensuite prendre un peu d'assurance. Et ensuite, il y a eu la première couverture, donc c'était Claude Eken avec l'autre Cécile au fleuve noir. Et ça, c'est vrai que je me souviens tout à fait de cette période-là, quoi. Tout
tout à fait.
Donc tu as enchaîné les couvertures. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là?
Enchaîner, c'est un bien grand mot quand même, hein, parce que disons autant il pouvait y avoir des contacts réguliers avec les éditeurs, mais la réaction, la réactivité n'était pas forcément imminente. Mais c'est vrai qu'après, s'est installée une régularité. Je me souviens quasiment dans l'ordre, il y avait eu Claude Eken, Pierre Barbet, et le troisième texte, je crois me souvenir que c'était Ayerdal en fait. Donc Ayerdal, et puis après, bon, après ça s'est enchaîné. Ouais.
Tu fais partie de ces illustrateurs qui lisent les textes qu'ils illustrent?
Oui, j'essaye. Oui. Non, je les lis, oui. Oui.
Bravo.
Tu voulais une réponse plus longue?
Moi, je sais pas, tu m'avais habitué à
être alors, des réponses par exemple, plus longues. Non. Non, mais par contre, c'est vrai que je lisais beaucoup, comme beaucoup de lecteurs français, je lisais beaucoup de textes anglo-saxons avant de travailler là-dedans, en fait. Et donc, les premiers textes que j'ai eu à illustrer étaient des auteurs français. Et c'était totalement différent pour moi, quoi. Et je me souviens que naïvement, je me disais, mais c'est totalement étrange, quoi. Il n'y avait pas du tout la même, je trouvais, la même écriture, la même façon d'appréhender les choses, le sens du récit, des trucs comme ça. Et je découvrais vraiment une autre façon de faire passer la terreur ou de faire passer le sentiment d'évasion, je dirais, propre à la SF. Et des textes comme voilà, Claude Eken, je me souviens tout à fait des premiers textes. Bon, Ayerdal, bien sûr. Il y a eu, après, Jean-Claude Dugnac, par exemple, qui est présent dans la salle. Je me souviens tout à fait de la période où j'ai illustré le premier texte que j'ai pu illustrer de Jean-Claude, c'était Étoile morte. Et voilà, découvrir un univers qui était, je dirais, complètement abstrait, parce que pour moi, c'était encore lié quand même à la littérature de ma jeunesse, à savoir donc anglo-saxon. Et là, savoir que c'était très près, puisque c'était quelqu'un ici, contemporain, français. Donc je me disais, mais voilà, il y a un rapport de proximité qui s'était installé. Et j'étais assez fasciné de découvrir cette littérature, quoi. Oui.
Donc tu as dessiné, tu as illustré beaucoup de livres. Pendant combien de temps? Une vingtaine d'années?
Ça fait quelques vingtaines.
Qu'est-ce qui reste après 20 ans d'illustration, de livres et de couvertures?
Eh bien, j'irais que sur 20 ans d'illustration, il y a eu de grandes périodes de doute quand même. Bon, ça continue un petit peu à m'assaillir de temps en temps. Là où je suis plutôt particulièrement content de ces dernières années, c'est quand même d'avoir su garder le plaisir du dessin, parce que le rapport à l'illustration est quand même assez particulier, parce que ça signifie faire un dessin, ça va être une semaine de travail, alors que ça nécessite plusieurs mois de démarchage, plusieurs mois de contact quand même, pour des fois n'avoir que voilà qu'une semaine de travail. Et pour un illustrateur, ça signifie se remettre toutes les semaines en question, quoi, toutes les semaines démarcher. On en parle peu dans le métier d'illustrateur, mais effectivement, illustrateur, c'est malheureusement pas que dessiner, quoi, en fait. C'est pas juste ce plaisir-là. Il faut savoir aller, entre guillemets, démarcher, essayer de ne pas se fâcher tout de suite avec les gens qu'on a en face. Et des fois, c'est pas très simple. Et du coup, c'est quand même relativement usant. Et moi, il y a eu quand même des périodes où, effectivement, où je me suis un peu éloigné de l'illustration. Bon, après, il y a eu Artefacts, il y a eu des choses comme ça. Mais par moments, je me suis un peu éloigné de l'illustration, peut-être malgré moi, parce que c'était aussi de l'absence de commandes ou des choses comme ça. Mais du coup, c'était des périodes qui m'ont fait voir un petit peu le métier différemment, le milieu de l'édition différemment. Et voilà, aujourd'hui, je suis content d'avoir retrouvé ce plaisir, quoi, en fait.
Et à quel moment, à partir de quand, un illustrateur peut-il considérer qu'il est en train de bâtir une œuvre?
Alors là, c'est une question piège.
C'est bah oui, blague. Ça fait partie des vraies fausses questions auxquelles j'ai pensé.
Alors là, j'en sais.
Est-ce que toi, tu penses que tu es voilà que tu construis ce qu'on
Même si c'est pas forcément un but, j'aimerais bien qu'il en reste forcément quelque chose, ou en tous les cas de bonnes sensations quand on lit le livre, ou de bonnes sensations quand on découvre l'image. J'ai la chance de rencontrer quelques auteurs qui me permettent d'avoir des retours sur leur œuvre, et puis sur, entre guillemets, le papier cadeau que j'ai mis autour. Donc quand c'est de super bons retours, ça fait vraiment très plaisir, effectivement. Donc voilà, ne serait-ce que ce rapport-là déjà est assez important pour moi, parce que l'auteur est vraiment celui que j'ai envie de surprendre en premier, quoi, en fait. Mais après, ce qu'il en reste, je dirais peu. Bon, moi, sur ma façon de travailler, j'ai pas forcément envie de refaire, de retravailler sur le même univers, de retravailler sur les mêmes, la même ambiance, les choses comme ça. Alors, des fois, c'est un petit peu déroutant, je pense, pour l'édition, enfin pour l'éditeur qui, lorsqu'il m'appelle, il sait pas forcément toujours ce qu'il va avoir comme résultat. Je sais que ça a joué en ma défaveur de temps en temps, parce que c'était malgré moi, parce que j'aurais préféré garder certaines fidélités avec certains éditeurs, mais par moments je comprends qu'ils puissent être fatigués de ne pas savoir exactement ce que je vais fournir comme image, et bon, je n'y peux rien malheureusement aujourd'hui, mais j'espère juste, voilà, que je me demande pas s'il y a un fil rouge. Je me doute bien que ce fil rouge va s'installer de lui-même, parce que malheureusement, bah, les mêmes défauts se répètent, et puis bah, sur 20 ans, ça devient un fil rouge. Mais du coup, des fois, on a envie d'en sortir, quoi.
Est-ce que tu peux revenir rapidement, en quelques mots, sur l'expérience d'Artefact ?
Alors, l'expérience d'Artefact, voilà, bah, écoute, c'est toujours une chouette idée, au départ, qu'on a eue il y a 10 ans aujourd'hui, quasiment, avec Philippe Joselon, à l'époque Sandrine Gestin, Hubert Delartigue et Manchu, par exemple, où on s'était dit, bah, tiens, le métier est quand même assez difficile en soi, on retrouve un petit peu des difficultés communes, des façons de procéder communes, pourquoi pas mettre quelques dialogues, instaurer quelques dialogues, et c'était une façon de se réunir et d'essayer, entre guillemets, de faire la promotion de l'illustration en France, parce que ça, je trouve que ça manquait à l'époque. Du coup, ben moi, je suis resté donc 10 ans président fondateur de cette association, et je l'ai quittée au mois de février aujourd'hui. Elle va voler de ses propres ailes, et pour l'instant, disons, ils sont en train de se remettre un petit peu en... de reprendre des habits neufs, quoi, je dirais. Mais je pense que ça reste une expérience positive. En tous les cas, même pour le milieu de l'édition française, et ne serait-ce que pour avoir créé une bande de copains liés par le même amour du dessin.
Parlant d'expériences importantes et marquantes, j'aimerais en venir à votre dernier travail. On va peut-être laisser sur la table. Il s'agit du chant du troll que quelqu'un nous a volé subrepticement. C'est un ouvrage écrit par Pierre Bottero que tu as illustré.
Voilà, il y a quelques images. Alors, ouais, voilà, quelques images du chant du troll, dont certaines inédites. Merci, mademoiselle, de nous prêter votre exemplaire du chant du troll. Bon, j'espère qu'on ne s'est pas fait pire.
Donc voilà, c'est une actualité, puisque paru il y a 3 semaines à peu près, hein, pas davantage.
Oui, le 20 octobre, voilà. Oui.
Et donc, il s'agit du dernier texte vraiment personnel de Pierre Bottero que... Voilà, que tu as... Vas-y.
Non, je dis que je suis particulièrement touché de te voir présenter ce livre aujourd'hui. Mais bon, vas-y, c'était la petite aparté.
Et c'est quelque chose de très nouveau dans ta carrière, c'est quelque chose de très différent de ce que tu nous as habitué à produire. Est-ce que tu peux en présenter brièvement la genèse, le point de départ ?
Eh bien, en fait, le point de départ, comme je l'avais suggéré au début dans un des remerciements que j'avais envoyé à l'éditeur, la genèse du livre, en fait, a été une tape sur l'épaule de la part de Pierre lors d'un salon, en me disant « Viens mon coco, on va discuter 2 minutes, en fait. » En fait, on avait un petit peu eu une discussion concernant le travail d'illustration par rapport au texte, un petit peu comme on a fait lors de nos premières 10 minutes là, de rencontre, à savoir qu'est-ce que je pouvais penser, moi, d'une imbrication réelle entre un texte et un travail d'illustration, voir comment je pouvais peut-être traiter ça. Et du coup, j'ai quand même compris, après cette tape sur l'épaule, que la discussion qu'on avait eue avait eu quelques échos positifs dans l'esprit... créatif de Pierre Bottero, parce qu'il tenait en fait à créer un livre particulier autour d'un texte qui lui tenait à cœur, mais qui était trop trop court, entre guillemets, pour en faire un roman complet, et qui était particulier pour différentes raisons, et donc il souhaitait pouvoir le présenter différemment. Et lorsque donc l'on s'est rencontrés, on a un petit peu échafaudé quelques plans sur la comète, les plus fous les uns que les autres, en se disant de toute façon on va le faire pour nous, qu'importe si on ne trouve pas d'éditeur, qu'importe l'éditeur à qui on va le confier, on va tâcher de s'amuser, de faire un ovni, et puis advienne que pourra. Donc avant tout, c'était le plaisir de travailler à deux, comme le même plaisir que tu connais bien. Et au départ, en fait, il y a eu 6 mois de travail qui n'apparaissent pas du tout dans le livre définitif, puisque tout a été mis de côté pour faire un autre type de travail, quoi, en fait.
Tu peux nous parler un petit peu de la façon que vous avez eu de travailler?
Eh bien, Pierre était assez occupé à l'époque, donc quand il m'a dit, écoute, bingo, on va faire quelque chose ensemble, on va lancer ça. Moi, j'avais peu d'espoir de le voir revenir vers moi d'ici les 5 prochaines années. Et puis, une fois, il m'a appelé en me disant, écoute, il y a un projet qui prend un petit peu de retard de mon côté, je vais me mettre sur l'ENA au départ, puisque cela ne s'appelait pas du tout le chant du troll au départ. Et donc, vu que je savais que ça allait être un texte court, il est revenu vers moi assez rapidement en me disant, écoute, j'ai achevé un premier jet. L'histoire au départ n'était pas vraiment celle-ci. Un petit peu plus violente, un petit peu plus surprenante, puisque moi je me souviens de ma première réaction en lui disant, mais écoute, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est pour de la jeunesse l'idée dont tu me parles? Et c'était assez, assez étrange, et je pense que cette étrangeté est gardée, disons, en filigrane dans le texte. Si on le décrypte un petit peu, on s'aperçoit qu'effectivement les thèmes abordés ne sont pas du tout les thèmes habituels de Pierre, et que c'est quelque chose de, je dirais, de plus sourd, de plus humain, et je pense que pour moi c'est vraiment ce qui fait l'importance de ce texte. J'espère qu'il restera, j'espère qu'il ne sera pas qu'un seul, qu'un ovni de passage, une comète, quoi, mais qu'il restera dans l'œuvre de Pierre comme étant une pierre importante quand même, parce que le texte est vraiment, vraiment quelque chose de très important, quoi, de poignant. Moi je me souviens tout à fait de ma réaction quand je l'ai lu, dans le courant de la nuit, quand il me l'a envoyé.
Est-ce que Pierre a eu le temps de voir toutes tes illustrations avant de disparaître?
Alors, moi j'ai eu à peu près 2 ans de travail sur le livre. Donc ce qui nous a amené à peu près à finir ensemble facilement quand même 70 à 75% des images. Puisque le jeu était de... Il m'avait, lui, envoyé le texte définitif. On avait mis en place ensemble ce qu'on appellera le chemin de fer, en fait, hein, savoir quel était le passage que l'on allait illustrer, qu'est-ce qu'il pouvait modifier, parce qu'il pouvait y avoir des descriptions dont j'allais m'emparer, moi, en illustration, et donc qu'il pourrait peut-être mettre de côté en texte. Donc c'était assez intéressant, ce travail dans la matière même, en fait. Et donc il a vu quand même, oui, facilement 75 à 70% du travail. Et pour la petite histoire, je dirais, malheureuse, c'est que la veille, en fait, il n'était pas encore question, on était encore dans le déroulé du livre, en fait, et je me souviens que la semaine précédant, le 8 novembre, je m'étais dit, j'ai envie de travailler sur le projet de couverture, en fait. Et il y avait une image vraiment qui me tenait à cœur, et je lui ai donc envoyé cette image, et donc voilà, pour la petite anecdote, c'était une autre couverture, parce qu'elle n'a pas été finalement retenue, mais donc la dernière image qu'il a vue du texte, c'était le projet de couverture, voilà, c'était la couverture, et je crois que vous l'avez dans le diaporama. Je tâcherai de la guetter pour vous montrer de quelle image il s'agit, et vous comprendrez pourquoi elle a finalement été mise de côté, vu les circonstances.
Par contre, il n'a jamais eu l'occasion de voir le texte et les images mis ensemble dans la maquette.
Non, il n'a pas... Non, il n'a pas eu cette chance-là. Alors.
Vous en aviez parlé ou il faisait a priori confiance à l'éditeur
Depuis quelques années, quand même, je pense qu'il faisait extrêmement confiance à l'éditeur et puis la réalité lui a donné raison. C'est vrai que l'éditrice, donc Caroline Vesberg, et puis toute son équipe au niveau maquette et autres, vu qu'ils n'étaient pas habitués à travailler sur un livre graphique, ils se sont vraiment investis à fond. Voilà, ça c'était la couverture en fait qu'il a reçue le dimanche. Et cette couverture, vu les circonstances, alors elle reflète pour moi réellement ce que l'on avait envie de communiquer sur le livre. Mais malheureusement, après la mort de Pierre, en fait, elle a été jugée beaucoup trop triste. En fait, elle pouvait être vraiment interprétée comme étant un recueillement qui n'était pas de bon aloi. Du coup, la couverture a été complètement modifiée. Mais c'est effectivement l'image. Et bon, moi, je me suis battu bec et ongle pour qu'elle soit choisie malgré tout. Et quand on m'a demandé de la remanier, j'ai passé facilement un mois à essayer de pondre des directions différentes. Et finalement, non, l'éditeur a tranché en faisant cette belle maquette. Et j'en suis que satisfait parce que justement, c'était bien qu'il s'en empare en fait, parce que moi j'arrivais plus du tout à travailler quoi. En fait, je suis resté facilement un mois, deux mois sans du tout travailler quoi. En fait, hein. Juste à tourner en rond. Mais voilà, donc c'est la couverture et c'est une image qui me plaît particulièrement par rapport au livre. En fait.
D'accord, le premier projet de couverture.
Voilà. Ouais. Mais donc il a pas vu effectivement le texte imbriqué dans la maquette du livre. Et malheureusement, il a pas vu le livre lui-même parce que le livre est au-delà de ce qu'on avait envisagé quoi. En fait, alors. Bizarrement, il a répondu à une interview qu'on avait fait tous les trois avec toi chez Pierre pour Jeune Lecture, Lecture Jeune. Et en fait, Pierre avait été interrogé sur le chant du troll et il a répondu en une dizaine de lignes, comme si le livre était déjà sorti. Et ça m'avait quand même vraiment surpris parce que il avait expliqué le processus un petit peu dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y a cinq lignes qui vraiment quasi prémonitoires en disant de toute façon, quel que soit l'accueil du livre, il m'a déjà apporté tout ce que j'espérais. Et ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire d'avoir ces quelques lignes que je garde précieusement, quoi, en fait. Voilà, ça c'est bon, sans dévoiler, c'est Burf, lui. Il s'appelle Burf. Il n'est pas très grand, mais il est vachement présent. Hein.
Ça représente combien d'illustrations ?
Alors sur le livre lui-même, je pense qu'il y a à peu près 200 illustrations, il me semble, petits et grands. Hein. Il y en a plus de fait, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été choisis. Là, par exemple, sur les personnages qui viennent de passer, les croquis n'apparaissent pas dans le livre, les choses comme ça. Et il y en a quelques-unes voilà, qui sont mises de côté. Donc je pense qu'en tout, j'ai dû faire 300 illustrations sur le livre. Dont des grandes pages, parce que le livre est composé de 5 dépliants sur 3 volets. Et donc, il y a quelques grandes pages qui n'ont pas été prises, en fait, qu'on a choisi de modifier. Donc, voilà, il y a un peu de matière qui reste à côté. Quoi.
Comment vit un illustrateur ? Je quitte un petit peu le thème, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'organise ton quotidien, comment s'organise ta vie de tous les jours, notamment quand tu travaillais sur le chant du troll ?
Alors le chant du troll, c'était quand même, assez exceptionnel pour moi en intensité de travail. Hein,
mais ça a duré quand même un certain temps.
Ça a duré carrément un certain temps et de longues heures quand même, parce que quand je parle de 2 ans de travail, ça n'a vraiment pas été 2 ans de travail à 3-4 heures de temps en temps, puisque je crois que j'ai dû perdre mes derniers cheveux lors des quelques dizaines de nuits blanches consacrées au chant du troll. Donc là, ça a été effectivement assez intense. Alors moi, le petit souci que j'avais lorsque on a abordé le chant du troll, en fait, c'est que je connaissais mes lacunes en dessin, en fait. J'étais pas du tout dupe de ça, et je savais que ça allait me demander bien plus d'heures que pour un dessinateur peut-être plus doué, peut-être plus qui a plus de facilité et autres. Par exemple, sur les personnages, ne serait-ce que les personnages, quand j'ai envoyé le premier personnage, c'était le bel elfe de face, le beau brun, on dira. Lorsque j'ai envoyé le beau brun à l'éditrice, je me souviens qu'elle m'a rappelé en me disant, écoute, Gilles, nous avons un problème. Ah, je lui ai dit, bon, ici, Houston. Elle m'a dit, nous n'allons pas pouvoir plus te payer. Parce que en voyant le travail, en fait, elle a vu le nombre d'heures passées, ne serait-ce que sur un personnage. Alors bon, moi, j'ai gloussé doucement en lui disant, écoute, c'est pas vraiment pour ça que j'ai fait ce livre, donc on doit pouvoir s'arranger. Mais elle a compris effectivement que j'avais passé beaucoup plus d'heures que prévu sur chaque travail. Et c'est vrai que sur un personnage, je passais facilement une semaine sur le personnage. Quoi. Et alors que bon, sur d'autres images qui ont été faites beaucoup plus rapidement. Mais voilà, donc je savais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps. Alors voilà, je parle vraiment de 2 ans à 10 heures par jour. D'autres dessinateurs auraient été peut-être plus rapides, mais moi c'était mon premier projet vraiment d'envergure. J'avais pas envie de compter mes heures, quoi, en fait. Alors comment ça s'organise tout ça quand on a 2 enfants, pas toujours, enfin ils sont pas toujours turbulents, mais ils sont pas toujours non plus juste une poterie de Dieu le fille posée dans un coin. Donc comment ça s'organise? Eh ben du coup on s'est dit, tiens, allez, pendant les quelques dizaines de mois qui vont arriver, je vais essayer de pas empiéter ma journée familiale avec mon travail. Et du coup, ben, je pouvais travailler normalement la journée, mais je savais pertinemment qu'une longue nuit m'attendait à chaque fois. Donc voilà, j'en ai pris mon parti, et du coup, ça s'est organisé comme ça. Donc de longues heures passées à la campagne, avec le casque sur les oreilles et le stylet de la palette au bout de la main. Mais du coup, moi, ça m'a permis de vraiment m'imprégner de cette ambiance du texte. Pour ceux qui l'ont lu, ils sauront, je pense, de quoi je veux parler. Cette présence, disons, nostalgique, liée à l'enfance, liée à quelque chose proche du recueillement, proche d'un état, disons, contemplatif, en fait. Et pour moi, je trouvais que la nuit se prêtait vraiment à ce travail. Alors, la nuit se prête souvent à un travail d'illustration, mais je trouvais particulièrement propice pour ce texte-là, en fait.
Quels sont tes projets actuellement ?
Ou à part harceler quelques éditeurs et quelques auteurs de mes connaissances. Bah écoute, malheureusement, il a fallu rebondir un petit peu. Hein. On est obligé de.
On doit ressentir un grand vide quand on a terminé un travail comme ça qui prend 2 ans.
Oui, là, j'avoue que le vide a été conséquent, puisque effectivement, il y a eu un peu tout qui s'en est mêlé, hein, malheureusement. Avec Pierre, on avait envisagé un autre travail sur. Parce que le chant du troll, sans dévoiler le contenu de du récit et l'historique du passé d'un des personnages de la saga de Pierre. Et il souhaitait faire le même traitement, en fait, pour un autre de ses personnages. Alors, du coup, ben là, celui-ci, on peut en parler puisque ça ne sera pas fait. C'était Merwin. Et j'aurais aimé savoir effectivement quel était le passé de ce personnage mystérieux. Malheureusement, ça ne se fera pas. Donc voilà, malgré tout, il faut essayer de rebondir, il faut essayer de trouver d'autres pistes, de lancer d'autres projets. Donc il y a quelques projets en cours. J'espère qu'ils aboutiront. Ça va malheureusement m'amener vers d'autres univers. J'aimerais bien effectivement, je ne veux pas m'en cacher, j'aimerais pouvoir... recommettre quelque chose dans l'univers de Pierre Bottero, parce que je me suis attaché à ces personnages et au personnage lui-même, ça on s'en doute. Donc ne serait-ce que pour lui rendre hommage, j'aimerais bien que l'envie d'un deuxième livre qui venait de sa part puisse être fait, mais je ne sais pas comment ça pourrait être fait aujourd'hui. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Avant de peut-être continuer avec le flux tendu de questions, je voulais savoir si dans la salle, il y avait des questions d'ores et déjà pour Gilles sur son travail, sur le chant du troll, parce que c'est une rencontre avec Gilles. C'est, voilà, je peux le rencontrer à tout moment. Il faut en profiter. Est-ce que vous avez des choses à lui demander? Je vais venir avec le micro portable. Ça marche, formidable.
Qu'est-ce que vous pensez d'Éric Lhomme?
Aïe, oula.
Ça m'apprendra.
Une réponse non censurée. Alors, pas oui ou non, peut-être. Alors, peut-être que je cours plus vite que lui, mais je suis pas sûr.
Parce que moi, j'avais apporté mes chaussures de running, mais toi, tu les as
malheureusement, oubliées, j'ai fait défaut. Ils m'ont collé des programmes trop intenses sur le, pour que je puisse aller m'amuser comme ça, à lancer des défis idiots.
Une question.
Bonjour. Donc, quels sont les peintres classiques ou autres qui vous ont influencé sur le plan du style ? Est-ce que vous intéressez enfin, à la peinture en général, ou bien est-ce que vous êtes parti, est-ce que vous êtes autodidacte à partir du moment où vous avez commencé à lire votre premier livre avec la couverture de Sudmac ?
Alors non, y a eu quand même des cours de dessin, enfin j'espère, mais parce que j'ai quand même encore quelques lacunes, mais elles seraient bien plus importantes si j'avais fait abstraction de tout enseignement. Par rapport au style, je ne sais pas exactement. Aujourd'hui, je ne sais pas trop. Mais bon, il y a quelques maîtres, effectivement, que je vénère et que je garde. Quand on me pose cette question-là, moi, les premiers peintres qui me viennent à l'esprit sont deux peintres, effectivement. Il y a eu forcément Hans-Rudi Giger par rapport à l'apport concernant l'aérographe, parce que quand j'ai découvert l'aérographie, j'ai découvert en même temps les livres de Giger, le créateur d'Alien, donc avec un travail assez noir, on dira. Mais du coup, c'était quand même un peintre qui m'a permis vraiment de rencontrer le fait, la possibilité de pouvoir créer une œuvre en faisant abstraction du reste, puisque il travaille vraiment d'une façon immersive, quoi. Pas de structures sociales qui vont le pousser à tenir compte d'un public ou d'un. Donc c'était en premier faire abstraction de la destination de l'image pour pouvoir faire son propre cheminement. Et après, il y a un deuxième peintre qui m'a beaucoup influencé, mais qui est hélas peu connu. C'est un peintre qui s'appelle Gustave Adolphe Mossa, qui est un peintre niçois, en fait, issu d'une lignée de peintres décoratifs qui ont fait le carnaval de Nice à l'époque. Et lui est un symboliste, je dirais, du 19e, mais vraiment avec une interprétation des premières théories freudiennes très, très présente dans ses tableaux. Et hyper dérangeante, puisque beaucoup d'images. Alors, c'est des aquarelles miniatures, hein, c'est des petites aquarelles de 30 cm qui sont exposées au musée Chéret à Nice, que je vous invite vraiment à passer voir, parce que c'est un univers, je dirais, digne d'un Jérôme Bosch ou d'un Gustav Klimt, avec le maniérisme de Klimt, mais avec la torture, je dirais, de Jérôme Bosch. Et c'est vraiment, il y a des scènes épouvantables, mais de toute beauté, parce que. Il y a quand même cette esthétique presque érotique liée à cette période-là. Gustave Adolphe Mossa, M-O-2-S-A, est vraiment, vraiment très chouette. Il y a une très, très belle monographie de lui qui a été faite par le musée Chéret. Et on la trouve en vente. Voilà, Gustave Adolphe Mossa, ouais. Très, 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 très chouette. Voilà. Et puis après, bon, bien sûr, les classiques Dali et autres, mais... À part les moustaches, j'ai rien conservé de lui.
Maintenant qu'on commence à faire de plus en plus de livres, on commence à réfléchir à l'idée de les faire en électronique, en e-book, etc. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, autour d'un livre illustré, de rajouter des couvertures alternatives, des dessins, tout un travail, justement, le petit sketch, tout ce qui va avec, tout le making-of aussi, qui peut aider à enrichir un livre. Est-ce qu'on commence à réfléchir à... ne pas seulement extraire une couverture, mais extraire tout un accompagnement. Parce que tu vois, je ne sais pas si tu as entendu la conférence ce matin que faisait Scott Westerfeld, qui insistait sur le fait que lui, il avait voulu faire un livre avec des illustrations, parce qu'il disait jusqu'aux années 30, tous les livres avaient des illustrations, parce que les illustrateurs étaient partout. Et lui, il a dit, je voulais revenir vers ça, et ça m'a obligé à écrire le livre différemment. Et quelquefois, j'ai entendu des choses à travers les illustrations où je me suis dit, ah, ça c'est trop bien, il faut que j'en remette dans le bouquin pour qu'il m'en refasse. Et donc, jouer à ce moment-là ce rôle-là, quoi.
Bah, écoute, moi je pense que c'est un support, effectivement, bon, qui en est à ses prémices, mais qui est hyper excitant. Moi, je reste toujours attristé quand je vois aujourd'hui l'attitude de certains éditeurs concernant l'image. Pas la couverture, parce qu'alors là, sinon, je vais me fâcher encore avec les quelques éditeurs avec qui je ne suis pas encore fâché, mais l'attitude des éditeurs sur l'image intérieure, en fait. Une image intérieure noir et blanc ne coûte quasiment rien à imprimer, hein, on est d'accord, alors qu'on sait pertinemment, et c'est reconnu, que Verne a été lu grâce aux illustrations, et on ne peut pas s'affranchir de ce passé-là et de cette réalité-là. Et donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on se sent obligé de s'en être affranchi. On s'extasie aujourd'hui, il y a quelques années, à l'époque, par exemple, de l'arrivée d'Harry Potter et autres, en disant ouais, « finalement, les jeunes lisent ». Mais je pense que si les illustrations avaient pu perdurer, je pense que les jeunes se seraient peut-être remis à lire, même avant Harry Potter, quoi. Je pense que l'image aurait pu être un moyen de les introduire à ça. C'est pour ça que moi, je reste par exemple, vraiment un défenseur de la bande dessinée, parce que la bande dessinée, même pour quelqu'un qui ne lit pas, ça peut être un moyen de rentrer quand même dans le livre, que ce soit la BD ou le manga. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre l'attitude des éditeurs concernant la littérature d'un côté, les dessins de Mickey de l'autre, quoi. Et je trouve que c'est presque un peu vulgaire de faire ça, quoi. Mais pour le livre électronique, oui, moi je suis tout à fait partant, surtout qu'aujourd'hui, voilà, je travaille plus du tout en traditionnel, hein, je travaille plus que sur Photoshop, et donc l'image est déjà dans la boîte, quoi.
Justement, tu gardes par exemple des refs intermédiaires, tu gardes éventuellement du dessin avant la coloriage, tu gardes tout ça, il y a moyen de le récupérer parce que ça aussi c'est drôlement intéressant.
Alors, je fais beaucoup de croquis sur des carnets, mais qui ne sont pas spécialement les croquis qui vont être destinés à être mis en couleur. Sur les images qu'on voit derrière moi, par contre, sont des images quasiment entièrement faites sur ordinateur, même le croquis, en fait.
Mais justement, des croquis, il y a des choses peut-être à garder, parce que ça, c'est terminé avec l'image, etc. Mais te dire le même juste à l'égal de quelques traits, ça peut être un détournement vers des...
Disons, l'avantage de Photoshop, par exemple, c'est que je n'écrase pas les images, donc du coup on peut très bien s'amuser à recréer le processus. J'avais fait il y a le Minotaur du Chant du Troll, par exemple, je l'ai en le Centaure, pas le Minotaur, je l'ai en step by step pour expliquer comment j'ai pu travailler à la création du personnage. Mais ça, c'est un processus, moi, qui m'intéresse, effectivement. Je donne quelques cours de dessin à côté de temps en temps, et c'est vrai que c'est un apprentissage nécessaire, parce que même si aujourd'hui, comme en photo, avec le numérique, tout le monde a l'impression de pouvoir être photographe, aujourd'hui, avec Photoshop, tout le monde a l'impression de pouvoir dessiner, et c'est malheureusement pas le cas, donc d'où l'intérêt qu'on trouve dans des bouquins où il y a des step-by-step, où il y a des explications données par les illustrateurs. C'est toujours intéressant de garder ça, oui.
D'autres questions ?
À quelle heure on mange ?
Moi j'ai une question parce que bon, je suis emmerdant, mais j'ai eu la chance d'être, et j'ai toujours la chance d'être illustré par l'ami Gilou ici présent. Puis il y a un prochain requin qui se prépare dont je sais qu'il sera aussi
chouette.
Et par contre, moi il y a une chose qui a été vraiment bouleversante pour moi, c'est lorsque j'ai publié mon premier livre au Fleuve Noir, qui s'appelait Étoile Morte, vous avez la couverture qui est passée à un moment donné, la Gilou a fait l'illustration. Et il faut savoir que lorsqu'on a fait Étoile Mourante avec Ayerdal, Ayerdal m'a dit, j'ai fait Étoile Mourante parce que je comprends ce que c'est qu'une étoile morte, enfin qu'une animal ville, pas par ton bouquin, mais parce que Gilles l'a dessiné et que maintenant je le vois. Et donc à un moment donné, tu as servi de passeur. C'est-à-dire que cette chose que tu as dessinée, et qui pour moi est extraordinaire, parce que voir une couverture qui représente ce qu'on voit dans sa tête et qu'on a fait passer par des mots. Et on se dit, ah, j'ai pas dû me planter parce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'extraire des mots ce que j'ai vu. Donc le passage a été bon. Mais Ayerdal m'a dit, c'est grâce à Francescano que l'Animal Ville, je le vois. Et donc ça a été ça. Tu as fait partie des trois personnes qui ont écrit Étoile Mourante.
Bon, il faut que j'aille voir l'éditeur.
Oui, ça me rappelle... L'anecdote également, moi j'ai été attiré par un livre qui s'appelait Déchiffrer la trame, et c'était par l'illustration de Gilles.
Ah bon, il dit ça aujourd'hui. Donc.
Voilà.
Ouais, c'est gentil. Pour l'anecdote, effectivement, Déchiffrer la trame, l'original est une grande toile en fait bleue, et donc elle a fini en une couverture brune. Mais non, pour Étoile Mourante, enfin pour Étoile Morte et Étoile Mourante, disons juste la petite anecdote, parce que comment on peut être un petit peu, je dirais, naïvement idiot quand on est illustrateur. Lorsque j'ai fait donc Étoile Morte, je me suis régalé à découvrir cet univers-là. Je me suis tellement amusé que les deux tomes ont été faits par une seule image composée de la partie gauche et de la partie droite de l'image. Voilà, et j'ai pas encore vu la mise en... Mais bon. Et du coup, on s'amusait à faire des dédicaces sur les deux livres à la fois. Et en fait, lorsque... Pour juste par... Bon, allez, on va... Mais bon, c'est pas grave, on s'était fâché avec eux, mais du coup, c'est fini, on s'est réconcilié. À l'époque, quand Étoile Mourante donc, était en projet dans la tête de Jean-Claude Duniac et d'Ayerdal, qui allaient publier ça donc, à la collection Millénaire chez J'ai lu, la collection Millénaire donc, ne souhaitait pas du tout avoir de couverture dessinée, en fait. Et moi, Étoile Morte étant, pour moi, un des textes les plus importants de ma petite carrière d'illustrateur, j'avais souhaité illustrer forcément Étoile Mourante. Et lorsque j'ai su que je ne pourrais pas faire la couverture d'Étoile Mourante, j'ai voulu faire un petit cadeau, disons, à Jean-Claude et à Ayerdal, en faisant une fresque qui fait 2 mètres de haut par 22 mètres de long, en fait, consacrée entièrement à Étoile Mourante. C'est ce que j'avais appelé ensuite le carré de soie, puisque c'était fait sur des panneaux de 1 mètre que l'on mettait en un cube. Donc ça fait un cube de 3 par 3 dans lequel... on pouvait s'immerger complètement, qui avait été exposé ici en 1999 ou en 2000. Et du coup, pour la petite anecdote, je me suis un peu vengé ensuite, parce que lorsque le livre est paru en poche, j'ai pu prendre juste une photo d'un des panneaux, retravailler avec le vaisseau, et du coup, j'avais quand même un bout de mon panneau sur la couverture d'Étoile Mourante, et ça, du coup, j'étais assez content. Mais voilà, ça, c'est pour les petites guéguerres, je dirais, entre illustrateur et éditeur, parce que, comme je disais, des fois, le rapport n'est pas toujours facile, parce qu'il s'agit de donner le meilleur de soi-même en très peu de temps. Et puis, bon, pas forcément en plus pour disons, une continuité de travail très importante. Donc, quand ça se passe pas super bien, on est encore plus insatisfait, peut-être. Et bon, peut-être que l'âge aidant, ça va mieux.
Bien, on va peut-être s'arrêter là. Et simplement, donc, en vous signalant que vous pouvez retrouver Gilles en dédicace dans 5 minutes, bien sûr, à la librairie.
Ben, merci d'être venu, en tous les cas. Et puis, ben, quoi que vous fassiez, si vous faites quelque chose pour l'univers de Pierre et le chant du troll, c'est un beau texte et ça me ferait hyper plaisir que vous le fassiez. Juste par rapport à tout ce qui s'est raconté par rapport à l'histoire de Pierre. Voilà.
Merci beaucoup, Gilles, d'avoir si bien parlé.